La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Programme du club de la tête au carré ce vendredi, les spécificités de la voix des femmes, le monde fascinant des méduses et un mystérieux animal préhistorique aujourd'hui disparu, la licorne de Sibérie. Je vous présente les invités de ce club dans un instant. Et à la une de la science, bonjour Héloïse Rambert.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui on fait un saut dans le passé et on s'intéresse à la grandeur et à la décadence de la cité d'Angkor.
Oui, on s'y intéresse parce que de nouveaux éléments scientifiques viennent d'être rendus publics sur le déclin de cette cité mythique qui reste toujours un peu mystérieuse pour les chercheurs. On voit ça dans quelques minutes.
Cette émission est réalisée par Fanny Bohuon, elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued.
La tête au carré, le club, avec Daniel Fievé. Sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré ce vendredi, le docteur spécialiste de la voix Jean Habitbol, le conservateur de l'aquarium de Paris Guillaume Éveillard, la journaliste à The Conversation Aline Richard et le paléontologue Christophe Mallet. Bonjour et bienvenue à tous les quatre.
Bonjour.
Jean Habitbol, vous venez de publier Voix de femme aux éditions Odile et Jacob. Vous vous intéressez aussi bien à l'émotion que peut susciter la voix d'une grande diva qu'à la façon dont la voix d'une femme évolue au cours de sa vie.
Absolument. Ce qui est absolument passionnant dans la voix de la femme, c'est que c'est la première voix que l'on entend à partir du moment où on passe de l'embryon au fœtus. Et dans cette vie fœtale, c'est celle qui va vraiment tatouer notre cerveau et tatouer notre monde émotionnel. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs études qui ont été faites, que je montre dans le livre. Et l'une des études les plus remarquables, c'est les grands prématurés. C'est une histoire absolument fabuleuse qui a été montée par deux équipes, une équipe de Tel Aviv, une équipe de San Francisco. Ils ont eu une idée de génie, mais vraiment de génie. Ils ont pris des grands prémats, il y aura 7 mois, entre 7 mois et 9 mois. Et ils ont pris 20 prémas dans lesquels ils ont laissé écouter que la salle de réanimation, le bip-bip, point barre. Puis, ils ont pris un deuxième groupe dans lequel ils ont mis dans la couveuse les bruits du battement de cœur de la mère, mais enregistrés au stéthoscope. Donc vraiment le bruit tel qu'on peut l'entendre à l'intérieur de son corps. Et puis, ils ont également enregistré la voix de la mère, mais le génie va plus loin. C'est que cette voix de la mère, ils ont fait comme si elle avait été prise dans le liquide amniotique, donc où on a éliminé certaines fréquences que l'on ne peut pas entendre quand on est à l'intérieur. On a fait une IRM. La projection acoustique au niveau cérébral des enfants préma, donc qui ont vécu que dans le milieu acoustique de la salle de réanimation. Environ entre 18 et 24 mois, l'IRM montre le développement du cortex au niveau de l'audition. Chez les enfants prématurés dans lesquels nous avons écouté ce que j'ai dit avant, nous avons à peu près à entre 9 mois et 12 mois la mise en place de la voix.
Ouais. Donc ça vient très tôt, hein. C'est ce que vous voulez dire. Alors on a déjà pu profiter de vos talents de conteur, on va avoir beaucoup plus d'histoires sur la voix dans la suite de cette émission, les spécificités physiologiques de la voix des femmes. Alors des avocats, des enseignants, des chanteuses aussi, des chanteuses célèbres parfois viennent vous consulter pour leur voix. Vous nous apprendrez aussi à prendre soin de notre voix. Également avec nous Guillaume Éveillard, vous êtes le conservateur de l'aquarium du Trocadéro à Paris qui vient d'ouvrir un médusarium, un espace uniquement consacré aux méduses, et vous avez un échantillon devant vous, un aquarium dans lequel on voit évoluer des petites méduses bleues. Comment s'appellent-elles ces méduses que vous nous avez apportées?
Alors ces méduses-là sont les méduses boulets de canon qui sont présentes au Mexique et donc qui sont fascinantes parce qu'elles sont très rapides, elles ont une forme de boulet de canon déjà et elles nagent très vite, ouais. D'où leur nom.
Et c'est tout, ça n'a l'air de rien, mais mettre des méduses en aquarium c'est tout un art, il a fallu innover, il a fallu aller jusqu'au Japon pour savoir comment faire pour mettre ces méduses en aquarium.
Oui, j'ai eu la chance d'être allé souvent au Japon, j'y suis allé 4 fois pour apprendre à m'occuper des méduses depuis 5 ans. Donc c'est dans un aquarium qui se trouve au nord du Japon, à Kamo, dans lequel ils élèvent jusqu'à 60 espèces de méduses. Donc c'est absolument magique comme endroit. Ils ont le plus grand aquarium du monde avec des méduses. Ouais. Donc c'est un aquarium qui fait 5 mètres de haut. Et on a été formés donc par les meilleurs. Et grâce à eux, on a pu ouvrir le Médusarium le 16 janvier dernier, dans lequel on a 24 bassins et on présente 45 espèces.
Et ce sera l'occasion aussi d'apprendre plein de choses sur ces animaux qui vous passionnent, qui nous font peur. Là, on peut les regarder en toute sécurité et c'est plutôt réjouissant. Aline Richard, journaliste à The Conversation, vous m'avez confié d'ailleurs que vous adoriez les méduses. Là, vous leur faites face. Hein, elles sont en train d'évoluer devant vous.
Je vais avoir du mal à rassembler mes esprits parce que je les regarde. Oui, c'est un animal extraordinaire. On a fait d'ailleurs dans The Conversation des articles de vulgarisation scientifique sur cette bête absolument étonnante qui vit dans nos océans, qui est là depuis des millions d'années et qui sera là certainement des millions d'années après nous.
Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venu pour ça, vous êtes venu avec Christophe Mallet, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il signe un article à lire sur le site The Conversation sur un mystérieux animal préhistorique.
Oui, on va lui demander, et à l'instant on va lui demander de nous décrire à quoi ressemblait Elasmotherium.
Vous l'avez bien dit.
Oui, tout à fait. Oui. Bonjour à tous. Alors Elasmotherium, il faut imaginer une sorte de rhinocéros, un petit peu plus gros que les rhinocéros auxquels on a affaire aujourd'hui dans le monde, et surtout avec une particularité, dont on reparlera je pense, une énorme corne frontale qui pouvait dépasser 1 mètre, 1 mètre 50. Potentiellement aussi une fourrure ou pas, on ne sait pas.
Ouais, c'est toute une enquête que vous racontez dans cet article, parce que finalement, on n'est pas sûr est-ce qu'il a côtoyé ou pas les hommes, les Homo sapiens, où il se situait géographiquement, ni même si cette corne de 2 mètres, effectivement, il la possédait ou pas. Donc c'est une véritable enquête qu'on va découvrir avec vous. Voilà pour les thèmes du jour. Et amis auditrices et auditeurs, vous pouvez participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de La Tête au Carré.
Il y a un mystère dans le corps. Tout cet immense rêve de pierre, rongé lentement par les termites, par les pluies et les vents, n'en continue pas moins de sourire par les yeux de ces têtes colossales, par les lèvres de ces Bouddhas, par le profil de ces dieux, de sourire à quelque chose d'inconnu qui flotte, palpite et respire mystérieusement autour d'Angkor.
Une description pour le moins emphatique des ruines d'Angkor dans les années 60 pour évoquer aujourd'hui à la une de la science une nouvelle étude sur la fin de la cité d'Angkor. Héloïse Rambert.
Oui, Daniel, c'est une étude qui a été publiée cette semaine dans la revue PNAS et qui, sans résoudre tous les mystères qui entourent la disparition de la civilisation d'Angkor, apporte tout de même des éléments très intéressants qui éclairent sur le déclin de l'ancienne capitale de l'Empire Khmer. Nous recevons Pierre Baptiste pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur au Musée national des arts asiatiques, c'est le musée Guimet, et en charge des arts de l'Asie du Sud-Est. Alors la fin de la civilisation d'Angkor fait débat depuis des décennies dans la communauté scientifique. Qu'est-ce que nous apprend cette nouvelle étude ?
En fait, c'est un peu une révolution parce que l'étude nous apprend que dès le début du XIVe siècle, le déclin s'amorce. Et en fait, jusqu'à présent, on imaginait que c'était vraiment la date de 1431 qui correspond en fait à l'invasion d'Angkor par les Thaïs du royaume d'Ayutthaya qui marquait le véritable déclin d'Angkor et que c'était après cette invasion, la destruction de la capitale, que l'élite, la cour royale et puis le reste de la population allait quitter les lieux.
Alors comment les scientifiques ont procédé pour arriver à cette conclusion et donc à la conclusion que un siècle avant en fait les gens étaient partis de la cité ?
Alors en fait, c'est une équipe australienne qui travaille sur le site déjà depuis de nombreuses années, qui a procédé récemment à un carottage dans la douve sud d'Angkor Thom. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont creusé avec un appareil qui permet de créer en fait un cylindre de terre qui mesure à peu près 70 cm de hauteur ou de profondeur en fait, et qui nous donne la stratigraphie du sol, du sous-sol, en dessous de cette douve. Et c'est en étudiant en fait les sédiments, et en faisant un certain nombre d'analyses assez complexes, des pollens, etc., de tous les éléments composants de cette carotte, en fait, que ces scientifiques ont pu apporter cette nouvelle vision.
C'est-à-dire qu'on voit comment la végétation a évolué, comment le sol a été travaillé au fil des années, on en déduit l'activité humaine qu'il devait y avoir à cet endroit-là.
Voilà, c'est ça, en fait. La carotte descend dans le sous-sol jusque au niveau du sol naturel, donc là où l'homme n'a visiblement rien fait. Et donc on est aux alentours du tout début du 9e siècle. Et puis, évidemment, au niveau du sol, on est presque, j'ai envie de dire, en temps réel. Et c'est effectivement dans cette stratigraphie qu'on trouve des éléments de carbone, par exemple, qui permettent de préciser si on a brûlé la forêt pour pouvoir dégager en fait le sol et puis procéder à une agriculture plus ou moins intensive avec les pollens qui nous précisent justement le type de plantes qu'on allait utiliser, planter à cet endroit.
Et dans les couches les plus récentes, on voit donc que cette activité est freinée puis cesse, c'est
absolument
ça ?
Il y a vraiment un clivage en fait entre la partie inférieure, les deux tiers inférieurs de cette carotte et le tiers supérieur. Autour de 1300, on sent que vraiment on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait la douve est visiblement en partie abandonnée, donc elle va s'ensabler et les plantes, la forêt va reprendre ses droits assez rapidement.
Et pour avoir un petit peu un repère, quand était l'apogée de la cité et comment il faut imaginer encore au moment de sa grandeur, de sa puissance ?
Alors la ville en fait a existé grosso modo du 10e au 15e siècle. Son apogée c'est vraiment le 12e siècle. On peut dire la première moitié, le milieu du 12e siècle, au moment où Suryavarman II, un grand roi qui en fait a conquis des territoires très importants presque partout dans la péninsule indochinoise. Donc le Cambodge de l'époque était beaucoup plus grand, à vrai dire beaucoup plus vaste que le pays actuel, a construit notamment le temple d'Angkor Wat qui est un des monuments sans doute les plus célèbres du site d'Angkor.
Et donc avant ces travaux, on imaginait un déclin plus tardif d'Angkor, comme on l'a dit. Quelle était la théorie qui dominait pour expliquer la fin de la cité ?
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on dispose de très peu d'éléments historiques. En fait, après 1295, au Cambodge, il y a presque plus d'inscriptions rédigées sur pierre. Et les textes historiques qui devaient exister, qui étaient rédigés sur palme, sur des matériaux végétaux, ont disparu jusqu'au 19e siècle. En fait. Et donc, il y avait vraiment un hiatus. On ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Et plusieurs hypothèses ont donc été formulées. On a pensé que le réseau hydraulique que c'était ensablé, que des variations climatiques avaient entraîné en fait une désagrégation de ce réseau hydraulique et du coup un abandon des terres par les populations qui exploitaient de manière très intensive tout le site d'Angkor qui fait à peu près 400 km².
Est-ce qu'il peut y avoir aussi des raisons culturelles ou politiques qui expliquent la fin d'Angkor ?
Alors oui, également, parce que c'est vrai que le Cambodge dans le courant du 14e siècle évolue beaucoup, va adopter une nouvelle religion, en fait, qui est le bouddhisme du petit véhicule, qui est toujours la religion actuelle du Cambodge, de la Thaïlande, du Laos, notamment, et qui est une religion très différente dans sa mise en œuvre, qui, dans le fond, se distingue un petit peu de ce qu'on connaissait à l'époque de l'apogée d'Angkor.
Et rapidement, donc, cette date de 1431, hein, cette invasion thaï, est-ce qu'elle a encore un intérêt dans l'histoire ? Est-ce que c'est une théorie qui est abandonnée ou simplement minimisée avec ces nouveaux résultats ?
Non, ça reste un jalon. C'est certain que 1431, ça marque le coup de grâce, en fait, d'Angkor. Mais ça n'est plus une ville, le coup de grâce d'une ville qui aurait été à son apogée. Hein. C'est vraiment, sans doute, je ne sais pas si ça a été vraiment une bataille facile, mais en tout cas, ça n'aura pas été la bataille dramatique qu'on a imaginée. En tout cas, on a visiblement dû mettre à plat une cité qui était déjà en déclin.
Merci, Pierre-Baptiste, pour nous avoir fait voyager ainsi dans les espace et dans le temps. Et merci Héloïse Rambert,
à
bientôt.
Merci Daniel, à bientôt.
Voix féminine, méduse et licorne préhistorique, on se retrouve dans un instant pour développer les thèmes du club de la tête au carré.
The memories faces right from the start. But I remember all your glory, and you left something in my heart, in my heart.
After All This Time, c'était Michael Chapman sur France Inter.
La tête au carré, le club.
Le club en compagnie de Guillaume Éveillard, conservateur de l'Aquarium de Paris, Aline Richard, journaliste à The Conversation, Christophe Mallet, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, et le docteur Jean Habitbol, otorhino-laryngologiste phoniatre, spécialiste de la voix, qui vient de publier Voix de femme aux éditions Odile Jacob. La voix de Maria Callas, oui. Air de la Norma, célèbre opéra de Bellini. Oui. C'est une voix mythique, hein, Jean Habitbol. Qu'est-ce que le spécialiste de la voix entend de plus que nous quand il entend la voix de la Callas qui nous touche tous?
Alors, non seulement elle nous touche tous, mais elle touche toute la planète. Une superbe expérience qui a été faite il y a quelques années où on a montré chez des arborigènes, au centre de l'Australie, on a montré tout simplement un film en montrant les Beatles, Michael Jackson, et on a montré Rod Stewart, et puis les gens regardaient ça tranquillement. Et puis on a fait écouter la voix de la Callas, ils se sont tous mis à pleurer. Ils comprennent pas les mots, mais ils comprennent l'émotion des mots, l'émotion de la voix, l'émotion des silences. Et dans la Callas, avec Maria Callas et sa rivale de l'époque, dans les années 50, entre 1950 et 54, qui était Renata Tebaldi, il y avait une vraie rivalité. Et dans la Traviata, qu'elles chantent toutes les deux, ou dans la Norma qu'on vient d'entendre, magnifique, eh bien, je dirais que la Callas déchire la robe vocale.
Qu'est-ce que ça veut dire, déchire la robe vocale?
Quand elle chante avec ses tripes, et peu importe si elle fait des fausses notes, c'est pas grave. Elle joue avec son corps et elle joue avec sa voix, mais ce jeu est elle-même, elle n'interprète pas, elle est Norma. Renata Tebaldi, classicisme remarquable, technique superbe, elle chante tout le temps très juste, c'est magnifique aussi. Mais on n'a pas l'impression d'être touché comme on l'est, enfin en ce qui me concerne, avec Maria Callas. Maria Callas, en l'écoutant, on entend derrière cette souffrance énorme qu'elle a eue avec sa mère. Sa mère qui ne voulait à peine la voir, elle-même ne s'aimait pas. La preuve en est, c'est que Maria Callas a dû maigrir de près de 35 kilos pour pouvoir ressembler aux icônes de l'époque. Elle a perdu en partie sa voix.
Ça a eu un effet sur sa voix.
Énorme. Hein,
Énorme.
Et à ce moment-là, on a un duel entre ce qu'elle voulait être et ce qu'elle était vraiment. Mm-hmm. Et la force d'une belle voix, c'est sa sincérité, c'est l'authenticité.
Alors, beaucoup de femmes sont venues vous consulter pour leur voix. Hein. Oui. Certaines vous ont même donné envie de mener des recherches. Oui. Il y a une trentaine d'années, une enseignante en école maternelle vient vous consulter parce que sa voix se casse régulièrement depuis 10 ans. Racontez.
très belle histoire. C'est qu'il y a une trentaine d'années, j'ai la chance de soigner pas mal d'enseignantes. Parce qu'en fait, la maternelle, elle parle et elle chante avec les enfants. Donc il faut que la voix soit robuste. Ouais. C'est pas quelqu'un qui chante tous les soirs, c'est 2 heures, je rentre à la maison, c'est fini. Pas l'enseignante, c'est 7 heures par jour. J'ai une énorme admiration pour ces enseignantes, car elles sont quelque part beaucoup plus proches des enfants que les parents. Elles sont beaucoup plus d'heures avec elles. Et cette fois, j'avais pas mal d'enseignants qui venaient voir tous les mois, un bras est cassé. Et je vais être tout à fait simple, je me disais dans ma tête, c'est psycho, quoi, ça va, tous les mois, entre guillemets, c'est un problème féminin. Et puis, j'ai une idée complètement folle. Je me suis dit, il y a peut-être un problème de cycle hormonal dans la voix. Peut-être que la voix change. La preuve en est, c'est que il y avait un papier dans les années au 19e siècle, à la Scala de Milan, où on faisait signer un papier à la femme qui chantait. Si elle avait ses règles, elle n'avait pas le droit de chanter, mais on honorait, entre guillemets, sa performance. Donc il y avait un vrai, entre guillemets,
lien
entre la voix et le cycle hormonal. Ouais. Et j'ai dit, de fou, c'est de faire un frottis des cordes vocales. Qu'est-ce que c'est qu'un frottis? Par un fibroscope, on passe une petite brosse, on enlève quelques cellules, on les analyse. Et des femmes connaissent bien ça en frottis gynéco. Mais l'idée folle est que j'avais fait le frottis des cordes vocales et le même jour, j'avais demandé un frottis gynéco. Et j'avais pris ces deux frottis, donc ces deux études cellulaires, que j'ai envoyées au même professeur De Bruyck, qui était un homme exceptionnel, qui à l'époque avait créé le frottis, il avait à l'époque 65 ans, ce qui pour nous aujourd'hui n'est pas vieux, mais à l'époque l'était. Et donc, je lui ai dit, voilà monsieur, qu'en pensez-vous? Il me dit, écoute mon petit habit de bol, c'est curieux, mais le frottis là, le deuxième là, il est curieux, c'est le col du terrain, mais il y a un truc bizarre. Je dis, non monsieur, c'est le frottis des cordes vocales. Et effectivement, la muqueuse de la corde vocale a un cycle menstruel comme la muqueuse du col. Et donc, en fonction de ce que la femme a au niveau de l'importance hormonale, de la contraception, de la ménopause, sa voix va changer dans son tessiture et dans son timbre. Mais aujourd'hui, grâce aux techniques que nous avons, notamment de traitement, on évite et on efface cette fragilité vocale.
Est-ce que les femmes muent aussi au moment de la puberté?
C'est une excellente question. On va revenir au castrat. On va revenir au castrat. Parce que très souvent, c'est une question qu'on me dit. On me dit, voilà, les castrats avaient une voix de femme. Ben non. Non. Les castrants, on les castrait avant l'âge de 10 ans. Donc avant qu'il y ait une influence hormonale mâle. Et ils avaient une voix d'enfant. Donc bien sûr que la femme mue, bien sûr que l'homme mue beaucoup plus que la femme à cause des androgènes, qui donnent ces voix d'homme, que le castrat n'aura pas, mais il n'aura pas la voix de la femme parce qu'il n'aura pas les hormones qu'on appelle progestérone et œstrogène qu'elle a au moment de la puberté.
Je vous propose d'écouter justement la voix du dernier castrat, Alessandro Morsky, qui a vécu au début du 20e siècle. Effectivement, l'enregistrement date de 1903. Il a été réalisé au Vatican. Un enregistrement qui a plus de 100 ans.
Là, on voit vraiment que c'est une voix de castrat, que c'est pas une voix de femme.
À quoi vous reconnaissez?
Très simple. La beauté d'une voix d'homme, c'est qu'il a des graves qui sont le diamant, et des aigus sont le reflet, c'est l'écrin. Et la beauté d'une voix de femme, c'est qu'en fait, son diamant, c'est les aigus, et l'écrin qui donne le relief, ce sont les graves. Là, c'est une voix d'enfant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lissage entre les graves et les aigus. On n'a pas cette puissance de la femme ou cette puissance de l'homme qui donne ce relief. Ce qui est beau dans une voix, c'est le relief. Et c'est une voix de sopraniste d'enfant. Ma sopraniste d'enfant. Juste une petite remarque, c'est que la pomme d'Adam, c'est l'homme. La femme n'en a pas. Mais pour moi, Ève arrive avant Adam, parce que c'est la voix de la femme qui a d'abord impacté le tout petit.
Alors des chanteuses célèbres sont venues vous consulter pour sauver leur voix. J'imagine qu'elles vous ont donné l'autorisation de le raconter puisque vous le racontez dans le livre. Céline Dion est venue vous voir, Hélène Ségara aussi. Oui. Mais alors Hélène Ségara, elle est venue vous voir, elle était désespérée. On lui disait, à ce moment-là, elle était sur une comédie musicale, elle avait trop forcé sur sa voix et on lui disait, vous n'allez plus chanter. Elle était au début de sa carrière et on lui disait, vous ne pourrez plus chanter.
Mais Hélène Séguin, c'est une artiste dans le sens du terme très fort. C'est-à-dire qu'elle est authentique ou elle fait confiance à la personne avec qui elle est. C'est-à-dire, elle fait confiance, elle fait pas confiance. Et elle est venue me voir, effectivement, dans ce domaine-là, elle avait beaucoup forcé au niveau de sa voix. Et elle avait un hématome, c'est-à-dire en forçant un peu comme un muscle. La corde vocale, c'est un muscle comme le biceps recouvert d'une peau qu'on appelle épithélium, peu importe. Elle avait effectivement un hématome à ce niveau-là. Et elle parlait un petit peu difficilement, elle avait forcé, car comme elle me l'a dit, quand on est sur une comédie musicale, et surtout quand on commence sa carrière, on dit pas non. Donc elle avait été jusqu'au bout de ses limites, car on a nos limites, tout le monde a ses limites, et elle les avait. Et elle me dit, voilà, c'est simple, faites une technique, faites ce que vous voulez, mais je sais que vous allez y arriver. Et me donner la possibilité, cette confiance énorme, fait que vous allez vous-même vous livrer complètement et faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et j'ai fait, effectivement, j'opérais au laser à l'époque. Je fais une technique laser qui était relativement innovatrice pour moi, parce que c'était rare que je puisse opérer quelqu'un avec une telle altération de la corde vocale. Et j'ai une chance formidable, c'est que ça a marché, qu'au bout de 2 mois et demi, elle a chanté magnifiquement bien et qu'elle a vendu plus de 1 million de disques après. Et donc, dans cette histoire, ce qui est beau...
Touché un petit peu sur les disques, vous y êtes pour quelqu'un.
J'ai fait mieux que ça, qui est beaucoup plus cher, parce que ça ne s'achète pas, c'est l'amitié.
Ah, c'est joli.
Et ça, c'est important. Mais ce qui est très beau dans cette histoire, certes, c'est une histoire d'accident, mais c'est là où on s'aperçoit l'importance de la voix.
Ouais.
Quand on la perd, c'est comme quelqu'un de cher. Quand on perd, on dit mince. Quand il est tout le temps avec vous, c'est pas grave. Mais dans cet élément-là, quand on écoute la voix de quelqu'un qui a disparu, on pleure. Quand on regarde la photo, ça nous fait de la peine, mais c'est la même chose. C'est la résonance de la voix dans notre monde de l'émotion.
Alors il y a des avocates, des enseignantes, oui, beaucoup de métiers où on a besoin de sa voix, on a besoin de l'entretenir. Alors pour terminer, quelques conseils simples pour avoir une voix claire et longtemps. Comment on entretient sa voix?
Alors d'abord, on entretient sa voix d'une façon très simple, c'est qu'il faut qu'on soit authentique et sincère avec elle-même. On ne joue pas avec une voix, car l'autre voit très bien. Quand on dit à quelqu'un, un ami, « Allô, bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. » Non, non, j'entends que tu vas pas bien. Oui. Donc la voix, c'est être sincère. Premier point. Si on l'est, il n'y a pas de problème. Deuxième point, c'est qu'effectivement, quand on est stressé, on a ce qu'on appelle un reflux gastrique. C'est des acidités de l'estomac qui remontent dans la gorge et qui vous donnent une voix un peu éteinte. Pour quelle raison? Très simple à comprendre. La clé, le mot clé de la voix, c'est la vibration. Et c'est 180 fois par seconde. Frotter les mains 180 fois par seconde, si elles sont pas lubrifiées, ça va brûler, ça va créer des polypes, ça va créer des problèmes. Et l'entretien, c'est boire, évidemment, beaucoup de l'eau de préférence.
Oui, c'est ça. Tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on raconte?
Et okay. Ce qui est altérant pour la voix, pour les professionnels, dont vous faites partie,
oui,
c'est champagne, vin blanc, rosé, dessèche les cordes vocales.
Oui. Donc, c'est pas
le rouge, il n'y a pas de problème.
Ah bon? Mais avec modération quand même.
Avec modération, bien sûr, avec modération. La preuve en est, c'est que notre ami Charles Aznavour, qui nous a quittés pendant des années, prenait un petit verre de Bordeaux avant de rentrer sur scène. Donc, ces vins rouges Bordeaux et vins blancs sont déconseillés comme la bière.
Ils sont déconseillés.
Complètement. Deuxième point, quand vous avez une voix qui est un petit peu sèche, vous prenez des aérosols avec des choses simples, ou des inhalations, c'est encore plus simple, avec du thym, du romarin, de l'eucalyptus. Alors, le mot-clé, c'est que vous inspirez et vous chantez bouche fermée. Pourquoi? Parce que quand vous chantez bouche fermée, ben vous faites vibrer les cordes vocales.
Donc ça, c'est une façon de chauffer sa voix un peu.
Excellent, ouais. Tout à fait. C'est excellent, c'est l'une des meilleures façons, parce que quand je fais « ah, yo, yo » comme ça, tous les muscles se mettent en marche. Il y a une contraction musculaire. Si je le fais bouche fermée, essayez de crier bouche fermée, c'est pas évident. Et enfin, si vous êtes lors d'une soirée et que vous êtes amené à faire des conférences, ayez une infusion au thym avec vous, avec une cuillère à café de miel, de préférence le manoukia, et qui est excellent, ou d'autres miels, et ça, une ou deux gorgées, pas plus, et ça vous permet de garder une belle voix. C'est des conseils tout simples.
Merci Jean Habitbol. Je rappelle le titre de votre livre, Voix de femme, aux éditions Odile Jacob. Il vient de sortir. Dans un instant, on s'offre une plongée garantie, sans risque, dans le monde des méduses. Vous écoutez le Club de la Tête au Carré sur France Inter.
Des baisers brûlés. des fiers, de Kiev, des chaleurs glacées. Aux nuits mêlées, estomac, matin. Des vierges, de Kiev, des trains pressés.
C'était Kiev, Vanessa Paradis.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Le club en compagnie de la journaliste à The Conversation Aline Richard, du paléontologue Christophe Mallet, du docteur spécialiste de la voix Jean Habitbol, qui fait ses consultations hein, pendant les pauses musicales avec Aline Richard, et le conservateur de l'aquarium de Paris, Guillaume Éveillard, qui vient d'ouvrir un médusarium. Alors vous êtes, Guillaume, un conservateur heureux, puisque effectivement vous êtes passionné de poissons, puisque vous tenez cet aquarium, enfin vous vous occupez de cet aquarium depuis longtemps, mais les méduses sont votre passion première. Vous avez déjà plongé, d'ailleurs votre plus beau souvenir de plongée, c'est avec des méduses, je crois.
Oui, j'ai effectivement travaillé auparavant dans un aquarium en Sologne, et comme je suis plongeur et quand on est en Sologne, c'est pas évident d'aller au bord de la mer, je plongeais dans une carrière, et dans cette carrière, l'eau était cristalline, et un matin j'ai plongé en premier avant que les autres plongeurs ne remuent la vase, donc l'eau était superbe. Et c'était une carrière dans laquelle il y avait des arbres, parce qu'avant, en fait, il y avait une forêt à cet endroit qui a été recouverte par l'eau. Et donc, j'ai plongé entre les arbres et il y avait des méduses d'eau douce. Donc, c'était une vision féerique dans une eau cristalline entre les arbres avec des méduses.
Ouais. Ça existe voilà. Donc, les méduses d'eau douce. On peut tomber face à des méduses, même dans un lac.
Oui, il y a une espèce de méduse d'eau douce qui s'appelle Craspedacusta sauverbi, qui est présente dans le monde entier et que l'on trouve en Île-de-France.
D'accord, bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bon. En tout cas, c'est comme ça. Quelles conditions particulières, donc, dans votre aquarium, vous présentez, il y a 23 espèces présentées en même temps, mais en coulisses, vous en avez plus encore. Dans quelles conditions on élève des méduses? C'est tout un art de mettre ces petites bêtes en aquarium.
Oui, effectivement. Alors, à l'Aquarium de Paris, on a un laboratoire dans lequel on élève les méduses. Donc, on a 45 espèces de méduses sous forme de polypes. Alors, les polypes, qu'est-ce que c'est?
Il faut revenir effectivement sur le cycle de reproduction de la méduse qui est méconnu finalement.
Et pour en parler, je vais commencer par parler des papillons. Parce que les papillons, tout le monde connaît, il y a des papillons mâles, des papillons femelles qui se reproduisent. Le résultat, c'est un œuf. L'œuf ne se transforme pas en papillon, il se transforme en chenille. Et après, la chenille donne naissance au papillon. C'est un petit peu pareil pour les méduses. Vous avez des méduses mâles, des méduses femelles, qui donnent naissance à un œuf. L'œuf se transforme en larve, et la larve ne se transforme pas en méduse. La larve se transforme en polype. Alors un polype, c'est une toute petite anémone qui mesure 2 mm, qui se fixe au fond de la mer et qui est capable de bourgeonner, donc qui se clone, qui se divise, pour former un tapis de polypes au fond des océans. Et lorsque les conditions climatiques changent, par exemple lorsqu'il y a un refroidissement brutal, donc sous nos latitudes en hiver, en hiver, les méduses naissent. Ces polypes se divisent, forment une pile d'assiettes, et chaque petite assiette sera une future méduse.
Donc la méduse, c'est la partie mobile de l'animal, mais c'est un animal, parce que ça reste un animal, qui a une partie de son cycle sous forme fixe, accrochée au fond des océans.
C'est ça, et la méduse est la partie sexuée du cycle de vie, et c'est elle donc qui donnera naissance au futur polype. Donc à l'aquarium, nous cultivons ces souches de polypes, on en a 45, et on les choque,
En température, hein, voilà. C'est comme ça qu'on choque un polype. Hein.
Exactement, on les refroidit et ils donnent naissance aux méduses, donc ce qui permet d'avoir des méduses en permanence, parce que les méduses, comme les papillons, sont éphémères en fait. Les méduses vivent entre 2 mois et 2 ans maximum.
Combien vont-elles vivre, celles, les très belles méduses qui évoluent juste devant vous, hein. Ce sont des petites méduses bleues. C'est vrai qu'on aime bien les regarder en aquarium, parce que là, on risque rien pour une fois, on risque pas. On les regarde jamais d'aussi près, aussi sereinement.
C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que les gens cherchent quand ils viennent à l'aquarium de Paris, ils sont médusés. Oui. Quand ils regardent les méduses, et puis ils n'ont pas peur de se faire piquer. Donc d'ailleurs, on a créé des bassins en forme de barre sur lesquels on peut poser les mains, poser son téléphone pour prendre une photo. Donc on est au plus près des méduses sans se faire piquer.
Oui. Alors des aquariums spéciaux parce que il faut que ça tourne en permanence. Faut imaginer comme des sortes de cylindres, comme des tambours de machine à laver finalement, qui tournent. Alors pas à la vitesse d'un tambour de machine à laver, mais qui tournent doucement pour que ces méduses, d'ailleurs celles qui sont devant vous, comme il n'y a pas ce système-là, elles sont toutes un peu collées au plafond de votre aquarium.
Exactement. Les méduses font partie du plancton. Et la définition du plancton, c'est que ce sont des organismes qui se laissent porter par le courant et qui sont incapables de nager contre le courant. Donc, parfois, quand on imagine des organismes planctoniques, on pense à des choses minuscules. Eh bien, non. Une méduse peut faire jusqu'à 2 mètres, peser 200 kilos, avoir des tentacules de 20 mètres de long. Et c'est du plancton.
D'accord.
Parce que ça n'est pas capable de nager contre le courant. Et effectivement, pour en maintenir dans les aquariums, il faut créer un courant d'eau. Donc, on les met dans des, ce qu'on appelle des carrousels, qui sont des manèges à méduses, donc un petit peu comme une machine à laver, ça tourne. Donc on crée un courant circulaire pour permettre aux méduses de nager.
Aline.
Alors oui, j'ai une question océanique, si je puis dire. Certains scientifiques expliquent qu'il y a une recrudescence des populations de méduses dans les mers du globe, que c'est dû au changement climatique notamment, et que il y a une théorie qui, au nom peu ragoûtant de océan gluant, qui se fait jour et qui dit finalement qu'avec l'acidification des océans, les organismes à coquilles disparaissent et ça favorise les méduses. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, Jacqueline Gouin, qui est une scientifique qui a travaillé toute sa vie sur les méduses, on l'appelle la dame aux méduses, qui fait partie de notre conseil scientifique à l'aquarium, a parlé de gélification des océans. Alors c'est surtout dû à la surpêche. Effectivement, le changement climatique aussi et la pollution anthropique également. Mais c'est vraiment à cause de la surpêche qu'on a des proliférations de méduses, notamment dans le sud-est de la Chine, dans une baie qui a été surpêchée depuis les années 50. Les stocks de poissons ont diminué, on est actuellement à 10% de ce que c'était dans les années 1950. Et les poissons ont été remplacés par des méduses.
Alors, c'est pas uniquement du côté de la Chine. Hein. Non, si on va sur nos côtes aussi, parfois, elles s'invitent pendant l'été et elles se montrent un peu envahissantes, ces méduses.
Belle affluence estivale déjà, plage de la Salisse. Mais la Pelagia noctiluca, la méduse la plus fréquente en Méditerranée, comme celle-ci en bord de plage, pique toujours. Les méduses sont ramenées sur les littorales par le vent d'Est. Leurs prédateurs naturels, les dauphins et tortues, sont moins nombreux, d'où une certaine prolifération.
Lundi, il y en avait beaucoup sur le rivage. Là. Il n'y en avait pas au large, hein, il n'y en avait pas plus loin. Où sont les gens? Il n'y en avait pas. Et là, sur le bord, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Hein.
Une brigade spécialisée de la commune prend en charge le ramassage en bord de plage. Par ailleurs, ce catamaran spécialisé peut remonter jusqu'à 200 kilos de méduses par capture. Mais aujourd'hui, les méduses ne sont pas au rendez-vous. La commune n'entend pas se satisfaire des filets anti-méduses.
Filets anti-méduses, c'est pour des zones très restreintes, 100 mètres carrés maximum, des petites piscines. Nous, on a 23 kilomètres de côte. On préfère assurer la sécurité sur les 23 kilomètres de côte plutôt que sur des petits confettis de 100 mètres carrés.
Et Guillaume Éveillard, pourquoi particulièrement pendant l'été? Parce qu'on part se baigner ou effectivement elles sont particulièrement présentes? On parle de boom de méduses hein, quand on a comme ça une explosion du nombre de méduses à certains endroits.
De prolifération soudaine. Effectivement en été parce que les méduses sous nos latitudes naissent en hiver, lorsqu'il y a un refroidissement, les polypes se mettent à strobiler, donc ils donnent naissance aux méduses. Elles grandissent au printemps, alors que c'est le moment où il y a un bloom phytoplanctonique, beaucoup de phytoplancton, beaucoup de zooplancton, et les méduses se nourrissent de zooplancton. Donc elles grandissent au printemps, elles sont adultes en été. Pas de chance pour nous parce que c'est à ce moment-là qu'on va se baigner, donc malheureusement on risque de se faire piquer. Et les méduses se reproduisent, puis meurent, et généralement on les retrouve échouées, parfois quand elles sont entraînées par le courant sur les plages, en automne.
Comment ça se fait qu'elles ne sont pas affectées par la surpêche? C'est-à-dire qu'on nous le dit, les poissons sont en train de disparaître, hein, c'est ce qu'on disait. Par contre, il y a ce risque de gélification des océans uniquement peuplés de méduses, comme en parlait Aline Richard tout à l'heure. Comment se fait-il qu'elles ne sont pas affectées par la pêche, elles?
Alors, les méduses sont pêchées aussi, c'est des bycatch, hein, c'est pas ce que ciblent les pêcheurs, mais ça arrive que des méduses soient pêchées dans les filets. D'ailleurs, ça entraîne parfois le naufrage de certains chalutiers. C'est arrivé au Japon avec la méduse Nomurai qui a bloqué un chalut et qui a entraîné le naufrage du chalutier. Donc, les méduses prolifèrent lorsqu'il n'y a plus de poissons parce que les poissons sont des prédateurs de méduses. Alors, quand on enlève le prédateur, eh bien, la proie... arrive. Donc les prolifères, exactement. Donc on a énormément de méduses qui arrivent dans certaines régions qui sont surpêchées. Et il y a un effet pervers qui est que plus il y a de méduses, moins il y a de poissons. Pourquoi ? Parce que les méduses mangent des larves de poissons et des œufs de poissons. Donc on se retrouve avec des océans de méduses.
Ouais, un cercle vicieux là encore. Alors pour vous qui avez décidé d'en élever dans vos aquariums, il faut quand même prendre quelques précautions. Vous avez des gants spéciaux parce que alors on ne se fait pas piquer, on se fait brûler hein, par une méduse, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Vous risquez peut-être de vous faire brûler. Alors, elles décident pas hein, quand elles brûlent ou pas. Elles ont leurs tentacules et puis elles décideraient. Elles n'ont pas de système nerveux et pas vraiment pas très intelligent une méduse.
Ah non, une méduse c'est pas du tout intelligent. Une méduse n'a pas de cerveau, une méduse n'a pas de cœur non plus, elle a un neurone. Non, les méduses sont vraiment très très simples comme organisme. C'est comme une anémone, hein, tout simplement. Donc on ne se pose pas de questions en général quand on voit une anémone, est-ce que ça a une intelligence ? Non. Eh bien la méduse non plus n'a pas d'intelligence. Et alors, elle brûle.
Les protections à prendre face à cet animal qui n'est pas forcément très intelligent mais qui peut faire très mal quand même.
Nous, quand on travaille avec, on met des gants, obligatoirement. Donc, c'est des gants qui remontent jusqu'à l'épaule, qu'on appelle des gants de fouille, qui sont à usage vétérinaire, hein, lorsqu'on insémine les vaches. Donc, on utilise ce même type de gants pour ne pas se faire brûler parce que il y a un phénomène qui s'appelle l'anaphylaxie chez la méduse, qui a été mis en évidence grâce à la méduse, qui est un peu l'inverse du vaccin, c'est-à-dire que plus on est piqué, plus on risque de devenir allergique. Donc nous, comme on travaille au quotidien avec ces animaux, eh bien, on doit absolument se protéger pour pouvoir continuer à travailler avec.
Et je crois même que vous avez une collègue qui, malencontreusement, a avalé, alors c'est pas dans votre aquarium, c'était dans un autre aquarium, quand elle travaillait sur des méduses, a avalé une méduse. Comment ça s'est passé ?
Alors, quand on travaille sur des méduses, parfois on est amené à vider le bassin. Pour ça, on fait ce qu'on appelle un siphon. Donc, on aspire l'eau par un tuyau et ça vide le bassin automatiquement. C'est le principe des vases communicants. Sauf que la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une poire de siphonnage pour amorcer le siphon. Eh bien, elle l'a fait à la bouche. Donc, elle a aspiré le tuyau et une méduse est arrivée en même temps. Et donc, sa gorge a gonflé et elle a fait une réaction allergique, ce qui lui a interdit de mettre la main dans un bassin à méduse par la suite parce qu'elle est devenue allergique.
Maintenant, elle ne peut plus du tout s'en occuper parce que ce serait des conséquences, vraiment une réaction anaphylactique très forte. On termine très rapidement. Quelques conseils. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire quand on se fait piquer l'été sur une plage ou en mer par une méduse?
Alors, en cas de brûlure, il faut retirer le tentacule ou les tentacules et il faut rincer à l'eau de mer. Ne surtout pas utiliser d'eau douce parce que l'eau douce fait ce qu'on appelle la lyse des cellules qui sont en fait urticantes, les cnidocystes, qui vont libérer le venin. Donc surtout, ne pas utiliser d'eau douce, rincer à l'eau de mer, retirer les tentacules et aller voir un médecin.
On frotte avec du sable ou c'est un mauvais conseil ça ?
Le sable, je déconseille parce qu'il y a des risques de bactéries et d'infections.
Le médusarium à découvrir à l'aquarium du Trocadéro à Paris. Et il y a tous les autres pensionnaires qui étaient déjà présents, ces requins, ces poissons.
Les sardines,
un banc de sardines.
Un banc de 3000 sardines qui viennent d'arriver.
Tout ça est à découvrir à l'aquarium du Trocadéro. Dans un instant, on s'intéresse aux licornes de Sibérie. On va remonter le temps. On part sur les traces de ce mystérieux animal préhistorique.
Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Quand tu fais la tarte aux pommes poupées, tu es divine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, oui. Allez, roule-moi la pâte, ça me plaît, ça m'émeut. Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu, mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Est-ce pour ta tarte ou ta pomme que je me lèche les babines? Rien n'est meilleur que les mains d'une femme dans la farine. Si ce n'est mes propres mains posées sur ta poitrine, rien n'est plus doux que les mains d'une femme dans la farine. Oh, c'est pas de la tarte, la pâtisserie, non, c'est pas du tout cuit. Faut lever la pâte et cela exige beaucoup d'énergie. À te voir ainsi, je retrouve mon âme enfantine. Rien n'est plus pur que les mains d'une femme dans la farine. C'est comme si tu étais ma mère en même temps que ma gamine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Oh, oh non. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
Les mains d'une femme dans la farine, c'était Claude Nougaro et la programmation musicale de La Tête au Carré est signée Thierry Dupin.
Le club sur France Inter.
Autour de la table du club, il y a le docteur Jean Habitbol, spécialiste de la voix, le conservateur de l'Aquarium de Paris, Guillaume Éveillard, la journaliste à The Conversation, Aline Richard, accompagnée du paléontologue Christophe Mallet. Alors c'est un article étonnant et passionnant que vous publiez, Aline, sur le site de The Conversation, sur cet animal dont j'ignorais l'existence hein, avant de vous lire, l'Elasmotherium, surnommé la licorne de Sibérie.
Oui, on va laisser notre paléontologue en parler. Sachez que quand on pense à la licorne, on pense en général aux chevaux,
oui. Hein,
avec un espèce de corne qui ressemble à un bout d'ADN sur le crâne.
Torsadé, quoi.
Voilà, torsadé, oui, cherchez le mot, merci. Et voilà, et alors licorne par-ci, licorne par-là, la Startup Nation, et je sais plus trop quoi encore. Nous, on a voulu parler de ce qui était dans le passé, voilà, d'une belle licorne, d'un animal extraordinaire, finalement du paléolithique, ce qu'on appelle la grande faune du paléolithique, aujourd'hui disparue, et donc de cette étrange bestiole.
Alors, Christophe Mallet, à quoi ressemblait cette étrange bestiole ?
Alors, oui, c'est vrai que quand on imagine une licorne, on a tout de suite l'image classique d'un cheval, simplement avec une corne torsadée, alors ouais. Qu'en fait, Elasmotherium est un membre de la famille des rhinocéros, c'est un cousin des rhinocéros actuels. Donc, beaucoup plus gros que les rhinocéros actuels, qui pouvaient faire 2 mètres au garrot, peut-être un peu plus, 4 à 5 tonnes. Et ce qui lui a valu ce surnom de licorne, c'est la présence supposée d'une grande corne frontale. Alors, c'est vrai que chez les rhinocéros actuels, surtout ceux africains, on a une corne frontale et une nasale. C'est surtout la corne nasale qui est la plus développée. Et là, on aurait l'inverse, l'absence peut-être d'une corne nasale et une très très grande corne frontale, mmh. Estimée, selon les études, entre 1 mètre, 1 mètre 50 de long.
Ce qui vous fait dire ça, c'est qu'il y a une sorte de dôme sur le crâne.
Exactement,
de cet animal,
ouais.
Un peu comme les rhinocéros. Et vu la forme et la taille du dôme, on imagine que la corne qui va avec doit faire 2 mètres de long.
C'est ça, effectivement. En fait, ce qui a choqué tout de suite lors des découvertes de ces fossiles il y a maintenant plus de 150 ans, c'est la présence d'un très très gros dôme osseux sur le haut du crâne, au-dessus des orbites. Et donc, par extension, puisque la plupart des rhinocéros actuels et beaucoup de rhinocéros fossiles possédaient des cornes, on en a déduit qu'il y avait très probablement là-dessus une très très grande corne.
Alors, où vivait-elle cette licorne ?
Alors, plutôt en Asie centrale. On en a retrouvé des fossiles au Kazakhstan, Russie, jusqu'en Azerbaïdjan, Ouzbékistan. Peut-être des traces jusqu'en Europe de l'Ouest par chez nous. C'est très 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 controversé, on va dire. On ouais. A peut-être une dent dans la Somme qui a été découverte il y a une centaine d'années, mais qui a été perdue depuis. Donc, plutôt un animal d'Asie centrale, des steppes d'Asie centrale.
Jean Habitbol.
Oui, je voulais vous demander, c'est fossilisé ou pas ces cornes? Parce que si vous dites qu'on les trouve pas, normalement,
voilà,
on devrait
les
trouver.
Très bonne question justement, de notre spécialiste de la voix.
Et en fait, lorsque j'ai commencé à écrire cet article, c'est ce qui est finalement apparu au jour. C'est-à-dire qu'on appelle licorne, mais finalement, en creusant, on se rend compte que à ma connaissance, en tout cas, il n'y a aucune corne fossilisée retrouvée pour cet animal. Contrairement au rhinocéros laineux, par exemple, un cousin qui est plutôt bien connu pour la préhistoire. Mmh. Là, on a des cornes qui ont été retrouvées avec des animaux dans le permafrost sibérien. Pour l'Elasmotherium,
c'est
pas le cas.
C'est étonnant ou pas ? La matière dans laquelle est faite cette corne fait que normalement, ça aurait dû se fossiliser facilement ?
Oui, c'est en kératine et dans certaines conditions, notamment les conditions assez froides d'Asie centrale, des steppes d'Asie centrale, on aurait la possibilité. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera jamais. J'espère qu'un jour on...
Alors, tout le débat déjà, c'est est-ce qu'elle existe ou pas cette corne? Et puis l'autre partie du débat, c'est jusqu'à quand a vécu ce mystérieux animal? Et là, les découvertes toutes récentes ont fait faire un bond dans le temps assez spectaculaire à l'animal.
C'est ça, ouais. C'est une étude qui a été publiée dans la revue Nature à la fin de l'année 2018. Les scientifiques ont réanalysé des ossements fossiles présents dans différents muséums et on les ont redatés. Et effectivement, on pensait que cet animal-là s'était éteint il y a environ 200 000 ans à peu près. Et cette nouvelle étude montre que au contraire, il aurait perduré jusqu'à peut-être il y a 40 000 ans avant notre ère. Donc ça le met beaucoup plus proche de nous, ça le met même contemporain des premiers Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce qui sera arrivée aussi en Europe de l'Est également.
Donc peut-être que nos ancêtres préhistoriques ont côtoyé cet animal. Est-ce qu'il y a des représentations d'un animal qui ressemble à ce qu'on pense de cette licorne dans les parois de dessins préhistoriques?
Alors, dans les années 60, il y a eu... potentiellement l'identification d'un Elasmotherium supposé, sur la base aussi de la présence d'une énorme corne, en France, dans la grotte de Rouffignac, en Dordogne, sur la base du fait qu'il y a beaucoup de rhinocéros et de mammouths laineux dans cette grotte, mais celui-ci sort du lot, il n'a vraiment pas la même allure, il n'a qu'une seule corne. Donc, certains scientifiques minoritaires y ont vu un Elasmotherium. Mais effectivement, ça ne colle pas tant au niveau temporel que...
Parce qu'il date de quand le dessin sur cette paroi?
Là, on est au Magdalénien, c'est-à-dire il y a environ 13 000 ans. Donc même avec cette nouvelle datation d'il y a 40 000 ans, ça fait quand même un gros gap de temps qui reste à...
Mais ça paraît envisageable qu'on n'ait pas encore retrouvé de fossiles, mais qu'il y a 13 000 ans, vivait encore en France ce rhinocéros géant avec cette corne de 2 mètres.
C'est un petit peu délicat parce qu'effectivement, c'est des périodes qu'on connaît très bien pour la préhistoire et on sait que on a un bestiaire qui est très connu, le renne, en premier lieu le mammouth des chevaux, etc. On a vraiment énormément de sites archéologiques bien connus pour cette période-là. Ça paraît assez peu probable qu'on ait eu un tel animal qui ne passe pas inaperçu en plus, complètement absent du registre fossile.
Alors, cette lignée a vécu plusieurs millions d'années sur Terre. Il y a cette licorne de Sibérie, mais il y avait d'autres animaux apparentés. Ils ont tous disparu. Il ne reste plus que le rhinocéros, hein, maintenant qu'on connaît. Pourquoi ils ont tous disparu alors qu'ils ont vécu pendant plusieurs dizaines de millions d'années à la surface du globe?
Oui, effectivement. Alors oui, dans les rhinocéros, actuellement, il reste 5 espèces à l'heure actuelle, malheureusement. Et du côté d'Elasmotherium. Cette nouvelle étude donc dans Nature met en avant la possibilité d'un changement climatique aux alentours de 40 000 ans. Un refroidissement en fait, qui va atteindre son paroxysme il y a 20 000 ans avec le dernier maximum glaciaire et ça aurait entraîné un changement environnemental et on serait passé d'un environnement steppique à un environnement de toundra assez froide qui n'aurait pas du tout convenu à Elasmotherium qui avait un régime alimentaire assez spécialisé. Donc avec la disparition de son alimentation, c'est-à-dire des graminées, on a potentiellement un facteur qui a pu entraîner sa disparition.
Alors il y a encore beaucoup d'incertitudes hein, sur cet animal. On peut se demander quand même si ils ne sont pas à l'origine du mythe de la licorne. Je vous propose d'écouter un texte qui date du XIIIe siècle, écrit par un philosophe florentin dans le Livre des Trésors.
La licorne est une bête redoutable, dont le corps ressemble un peu à celui du cheval. Mais elle a le pied de l'éléphant et une queue de cerf. Et sa voix est tout à fait épouvantable. Au milieu de sa tête se trouve une corne unique, extraordinairement étincelante, et qui a bien 4 pieds de long. Mais elle est si résistante et si acérée qu'elle transperce sans peine tout ce qu'elle frappe. Et sachez que la licorne est si cruelle et si redoutable que personne ne peut l'atteindre ou la capturer à l'aide d'un piège quel qu'il soit. Il est bien possible de la tuer, mais on ne peut la capturer vivante. Brunetto Latini, Livre du Trésor, XIIIe siècle.
Un texte lu par Catherine Laborde. C'est amusant parce qu'on voit aussi comment l'image de la licorne, qui est beaucoup plus positive aujourd'hui, au XIIIe siècle, bon, c'était beaucoup moins positif. Il s'agissait de la capturer. Elle avait une voix désagréable, vous avez noté, Jean Bitbol.
Puis la voix, la façon dont elle nous le conte, c'est magnifique. Elle est superbe.
Ouais,
on la raconte, on part avec elle dans ce qu'on raconte.
Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont ces animaux-là, en tout cas les rhinocéros, qui sont à l'origine du mythe de la licorne?
Oui, peut-être beaucoup plus les rhinocéros aussi indien ou voilà qui plus que l'Elasmotherium en lui-même. Alors certains effectivement scientifiques qui ont vu peut-être la possibilité de l'origine du mythe de la licorne dans cet Elasmotherium disparu, mais il est plus probable que ce soit effectivement les rhinocéros qui devaient être déjà assez impressionnants au Moyen-Âge ou pour engendrer ce genre de mythe, ouais, effectivement.
Ouais. Alors, cet Elasmotherium, il pose aussi la question du gigantisme. Quand on remonte à ces périodes lointaines, on est toujours surpris de la faune qui existait à la surface du globe, c'est-à-dire sur la Terre. Maintenant, le gigantisme, c'est pour les mers, on a des baleines, mais sur Terre, on a des animaux beaucoup plus petits. Comment expliquer que la biodiversité ait explosé en taille à ces périodes-là?
Oui, c'est une tendance qu'on a dans de nombreuses lignées de mammifères, surtout on a, et même des reptiles et autres, on a cette tendance au gigantisme, et souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent le gigantisme aussi est suivi des fois par des moments de disparition, d'extinction. Et dans les rhinocéros, on a celui-ci qui était parmi les plus gros des dernières rhinocéros, on va dire, fossiles, mais on a aussi des espèces beaucoup plus anciennes, comme Paraceratherium, qui faisait 5 à 6 mètres au garrot, qui n'avait pas de cornes, mais qui est quand même apparenté au rhinocéros, et qui était, à l'heure actuelle, considéré comme le plus gros mammifère terrestre que l'on connaisse.
Merci Christophe Mallet. Votre article s'intitule « Qui était Elasmotherium, surnommé la licorne de Sibérie ?» Il est accessible gratuitement sur le site The Conversation. Merci à tous. Vous retrouverez avec plaisir Mathieu Vidard aux commandes de La Tête au Carré dès lundi, et vous retrouverez Fabrice Drouel dans un instant. Merci à Kevin Pelot qui était à la technique. Vous écoutez France Inter, il est 15h.